Bonjour, c'est Tim Willox. Vous écoutez Pop Pop Pop. Et Pop Pop Pop, c'est parti. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Nos auditeurs les moins perspicaces ou les plus distraits, histoire de ne vexer personne, l'auront remarqué, ici à Pop-pop-pop, on aime bien la BD sous toutes ses formes. Et pour ce qui est des formes, l'auteur que nous recevons aujourd'hui y va à fond, si je puis dire. Ses personnages féminins sont souvent plantureux, généralement à forte poitrine, et les hommes, eux, partagent avec moi ce privilège d'avoir été particulièrement gâtés par Mère Nature. Et là, vous vous dites, ça y est, ils ont encore invité un pornographe, un érotomane, un pervers, polymorphe, en un mot comme en mille, un obsédé. Et peut-être qu'il y a un peu de tout cela chez Bastien Vivès, même s'il serait terriblement réducteur de vouloir le résumer à ça. Non, Bastien Vivès est surtout un maître, j'ai pas dit un maître étalon, de la bande dessinée qui a rarement aussi bien mérité son nom qu'avec lui. Et c'est à genoux que nous le remercions d'imaginer des histoires qui émoustillent les petits et les grands, enfin disons des jeunes ados aux cartes vermeilles les plus mûres comme celles qui vous parlent en ce moment. Et comme l'actualité est parfois facétieuse, figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est en plus la journée mondiale du don d'organes. Bastien Vivès est l'invité de Pop-Pop-Pop.
France Inter.
Bonjour.
Pop-Pop-Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Bastien Vivès.
Oui, bonjour.
Tout est dit ?
Oui, voilà, c'est assez bien résumé, on pourra ajouter ça à mon Wikipédia.
Bon, merci Bastien Vivès, Le Chemisier, c'est édité chez Casterman. Mais non, ne partez pas. Au menu également de ce pop-pop-pop, Porn Pop, la sociologue Janine Mossulaveau, pour nous parler de la vie sexuelle en France, son dernier ouvrage, on en parlera tout à l'heure.
Bonjour Antoine.
Oh, mais bonjour,
bonjour
Charline.
Bastien.
Bonjour.
Comment allez-vous Charline?
Ça va et vous?
Ben oui, mais vous
j'ai
arrivez...
parlé moins fort après.
Mais non, vous arrivez au dernier moment dans le studio aussi, on ne peut pas vous voir comme ça. Bon, avant ça, Bastien Vivès, ici il existe une question qui m'obsède moi aussi, et cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors pour être totalement honnête, attendez, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, turgescentes, indéchiffrables. Parmi mes préférées, il y a celle d'Emily Ratajkowski, enfin de M. Rata, quoi. Écoutez.
What is pop culture? Well, it's funny because I think I spent a very early part of my life really rejecting pop culture.
Au début, quand j'étais jeune, je crois que je rejetais la pop culture. Mes parents étaient des enfants des années 60, donc je m'en méfie un petit peu, je voulais m'en échapper. Ce n'était pas mon monde, je pensais, mais en grandissant, vieillissant, j'en suis venue à vraiment l'apprécier. Je trouve ça vraiment intéressant, passionnant. On peut tellement apprendre en observant la scène de la pop culture.
Ah pardon. Et pour vous, Bastien Vivès, c'est quoi?
Alors, je me souviens que j'étais passé dans l'émission et j'avais dû dire que c'était...
Non, vous n'allez pas redire la même chose aujourd'hui.
Non.
Vous n'allez pas vous en sortir.
Mais
comme ça.
Je sais pas si ça a vraiment rebougé depuis, mais on va dire oui, c'est toujours... Je pense que ça va se passer. Voilà, c'est des. Je sais plus ce que j'avais dit. C'était quoi? C'était des
obèses avec un t-shirt.
Avec un t-shirt Yoda, avec une casquette Mickey, ouais. À la Japan Expo. Et je pense qu'on en est encore un peu là-dedans. Donc,
ça n'a pas bougé.
Je resterai sur mes propos.
Et voilà. Sur votre position. Très bien. Bastien Vivès, on parle de porn, de pop, de culture et de pop culture juste après un nouveau morceau d'Alain Bashung. Je sais, c'est bizarre dit comme ça. Ça s'appelle Immortel. C'est le premier extrait d'En Amont, un album qui regroupe 11 titres inédits et qui vient de sortir.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortels, mortels, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Alain Bashung, Immortel, premier morceau des 11 titres inédits à retrouver sur l'album En Amont. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité un poil obsédé, même s'il n'est pas obsédé par les poils, mais qui est-il? Alors, faisons son pop portrait, mais votre portrait, Bastien, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Ça y est?
Oui.
Aujourd'hui, nous recevons un jeune artiste déjà passé par plusieurs grandes phases, comme tout artiste digne de ce nom, de son propre aveu. Araignée, dinosaure, tortue ninja, et puis d'un coup, femme à poil. Alors si on applique à son parcours une quelconque théorie de l'évolution, j'avoue, c'est quand même moyen flatteur pour nous les femmes, nous le charme. Enfin, elle le charme, parce que les femmes dessinées par Bastien Vivès, ici présents, sont, comment dire, majoritairement de type petit séant et gros sein. Moi je dis bonjour les scolioses, mais enfin ce n'est que mon avis, il dessine, il écrit, il n'est pas kiné. Et ce n'est pas la Séverine dont il vient nous parler aujourd'hui qui déroge à la règle. L'ont précédé les filles d'amitié étroite, celles d'une sœur, des melons de la colère évidemment, celles de Lasman aussi. Mais réduire Bastien Vivès, vous le disiez Antoine, à son statut d'homme qui les aimait, les gros seins et les petits culs, serait aussi absurde que de résumer Antoine de Caunes par son statut de springsteenien devant l'éternel. Certes, c'est une grosse partie de ce qui les anime, mais ce n'est pas tout. Enfin, il paraît. Enfin, surtout pour Antoine. Bastien Vivès est un auteur sensible, en témoigne le goût du chlore, Paulina, et même ce chemisier dont nous allons parler, parce qu'une certaine gravité n'exclut pas... Voilà.
Est-ce que vous vous souciez des scolioses que vous pouvez provoquer aux personnages que vous dessinez, Bastien, juste pour répondre à Charline?
Non, mais en fait, c'est, j'ai l'impression, de, juste pour revenir à cette histoire de gros seins, parce que je trouve que ça peut être assez réducteur comme ça quand on en parle, mais non, mais à chaque fois, j'ai toujours été fasciné par les filles qui se plaignaient d'avoir des gros seins. Alors qu'en fait, non, oui, dépasser une certaine taille, ça peut avoir certains problèmes et ça peut donner des mal au dos et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment à un point, il y a des, comment elle s'appelle, Simona Halep, elle a été championne et elle a fait ses premiers Roland-Garros avec une poitrine énorme et au bout d'un moment, elle s'est fait retirer des seins parce qu'elle voulait vraiment être numéro 1 mondial. Mais avant ça, elle était numéro 40 mondial. Donc je pense que on peut arriver numéro 40 mondial avec une très très grosse poitrine, voilà.
Ben nous voilà fixés. Bastien Vivès, continuons de parler de vos obsessions avec votre popliste. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Plateforme. C'est un livre de Michel Houellebecq publié en 2001 chez Flammarion. Un livre qui a fait l'objet d'une polémique à sa sortie. Houellebecq ayant été accusé de promouvoir le tourisme sexuel. Charline, vous dont les particules sont tout sauf élémentaires, résumez-nous l'action s'il vous plaît.
Action et Welbeck, je ne sais pas si c'est très compatible. Michel est un employé du ministère de la Culture. Sa vie est morne et à la mort de son père, il part en Thaïlande en voyage organisé. Il visite les sites touristiques, mais pas que. Il se lie également avec Valérie. Ensemble, ils voyageront tout en multipliant les expériences sexuelles ici et là.
Mm-hmm. Bastien, vous voulez bien nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Alors moi, je lis très très mal. J'espère que je ne vais pas faire un affront au texte. Mon père est mort il y a un an. Je ne crois pas à cette théorie selon laquelle on devient réellement adulte à la mort de ses parents. On ne devient jamais réellement adulte. Devant le cercueil du vieillard, des pensées déplaisantes me sont venues. Il avait profité de la vie, le vieux salaud. Il s'était démerdé comme un chef. Tu as eu des gosses, mon con, me dis-je avec entrain. Tu as fourré ta grosse bite dans la chatte de ma mère.
On ne devient jamais réellement adulte. Vous pensez ça?
Ouais, c'est difficile. Je pense que c'est assez compliqué. Non, je pense que y a un moment donné, on devient adulte avec des choses aussi simples que se marier, faire des gosses. Mmh. Bon, voilà, on devient adulte.
Pourquoi ce Welbeck-là en particulier, vous êtes-il à ce point conquis?
Parce que moi, je me suis mis à la littérature très très tard. Et quand j'ai découvert Welbeck, je me suis demandé si vraiment toute l'histoire de la bande dessinée avait vraiment un sens, si on n'était pas vraiment... À chaque fois, on essaye de se battre dans la bande dessinée pour se faire respecter comme... Enfin, les gens essayent de se battre pour se faire respecter comme une espèce de noble art. Et puis, je vois la puissance des textes qu'il a et le fait de, en 300 pages... Parce que moi, je fais des bouquins de 200 pages et lui, en juste 100 pages de plus, il raconte tellement plus, de manière tellement plus profonde et tellement plus vaste que, et avec tellement de sujets... que ça fout le vertige, quoi. Donc, donc évidemment, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce qu'était la bande dessinée et vraiment les points forts de la bande dessinée. Et j'en suis arrivé à certaines conclusions qui étaient que vraiment dans la littérature, c'est la digression, en fait. C'est vraiment un art de la digression, de prendre une idée et puis de l'étaler, d'aller vraiment très loin. C'est ce que fait Welbeck à merveille. Et je pense que dans la bande dessinée, c'est plus, y a plus l'idée de la surprise qu'on peut moins avoir dans la littérature. Le fait qu'à chaque case, ce soit une surprise et qu'on on avance de surprise en surprise. Voilà. Bref, et c'est ce genre de réflexion, c'est toujours bien d'aller voir un peu ailleurs pour se recentrer sur l'art qu'on exerce.
Et vous êtes mis à la lecture très tard, comme vous le disiez à l'instant, donc ne désespérez pas, jeunes amis auditeurs, si ce n'est pas encore votre cas, mais il faut vraiment lire des livres.
Oui, complètement. Ouais.
Continuons avec votre film culte. Ce film, ça commence aujourd'hui, c'est réalisé en 1999 par Bertrand Tavernier. Charline, c'est drôle, c'est la phrase que vous prononcez tous les matins en poussant la porte du bureau. De quoi parlait ce film?
Alors moi, je parle du respect quand je pousse la porte du bureau en criant ça, mais ça ne marche pas. Le film, lui, raconte la lutte quotidienne de Daniel, Philippe Toreton, directeur de maternelle dans le Nord, qui se bat contre vents et marées, contre la petite délinquance, la détresse sociale et une hiérarchie immobile et méprisante.
Il faut vous lever le matin, il faut vous forcer à vous lever, c'est important. Il faut le conduire à l'école. S'il fait une bonne maternelle, après, il s'en sortira mieux à l'école primaire. Il prendra pas de retard.
Ces gens-là, tu leur files une aile, ils achètent avec des paquets de bière et du gros rouge.
Non, attends, ces gens-là, comme tu dis, ils ont un bébé, une petite fille de 5 ans. Et t'as vu où ils vivent?
Il y a deux gamins dans mon école, deux gamins que vous venez priver de cantine, j'en fais quoi?
Calmez-vous, monsieur Lefebvre.
Je les emmène au McDo et je demande une fiche.
On ne vous demande pas d'être un agitateur, on vous demande d'être un médiateur.
On en jette la moitié à la poubelle, puis avec les autres, on regarde ce qu'on peut faire. Seulement, la poubelle, elle va nous péter à la gueule, parce qu'elle arrête pas de grossir, la poubelle.
Demande pas d'être un agitateur, on a reconnu la voix de Philippe Toreton. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce film de Tavernier?
J'aime beaucoup Tavernier, j'avais dû parler de L627 et de ces choses-là, mais alors ça commence aujourd'hui, il m'est revenu vraiment en tête celui-là quand on m'avait demandé quel était mon film culte, parce que je trouve qu'il est vraiment extrêmement actuel, quand il dit que la poubelle va nous péter à la gueule et tout ça, l'éducation des gosses, et comment est-ce que, surtout, il raconte une histoire qui est vraiment bouleversante. Et il y a cette phrase qu'il dit au début, alors que c'est un prof, c'est un instit et tout, il dit « on aura vécu et on n'aura rien fait, on n'aura rien fait pour ces gens-là ». Et ça, cette phrase-là, tu commences un film et t'as 30 secondes, du début du film et t'as déjà les larmes aux yeux et tu prends une émotion pendant 1h45. Je pense que oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre et je suis toujours un peu surpris qu'il soit pas plus cité ou plus qu'on le sorte pas plus de la filmo de Tavernier, quoi. C'est vraiment un film remarquable et bouleversant. Voilà.
Ça commence aujourd'hui, c'est le titre. Continuons avec votre chanson culte. Et alors là, je vous replonge dans l'été 84.
Je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en perle. Je vais pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne. Je vais pas te laisser dormir toute seule si t'es libre ce week-end.
Petite Lady, c'était le tube de l'été 84, signé Vivien Savage. 84, l'année de votre naissance, vous aviez 5 mois cet été-là, ouais. Vous en rappelez encore?
Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, quand je trouve que cette chanson, elle est... Je suis toujours hyper étonné des mecs qui ont fait, enfin, des artistes qui ont fait qu'une seule chanson. Et celle-là, elle est tellement parfaitement écrite. Je comprends pas comment il a pas pu en faire d'autres. Peut-être qu'il y a un mystère autour de ces chansons. Peut-être qu'il avait pris les textes, je sais pas quoi. Mais, en tout cas, je trouve que c'est une leçon de séduction incroyable. Mmh. Ça résonne différemment aujourd'hui à nos oreilles. C'est un mec qui croise une nana à la gare Saint-Lazare et tout. Mais je trouve que je vais pas te laisser partir avec un légionnaire en perles. Je vais pas te laisser dormir toute seule ce week-end. Il y a quelque chose hyper insistant, d'hyper brusque. Mais quand il le raconte, t'as envie de lui sauter dans les bras.
Je vais pas te laisser.
Ah oui,
je vais pas te laisser dormir.
Est-ce que vous avez une explication quant à la phrase car tu as comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemble au tatouage que j'ai dans le cœur?
Bah ouais, mais c'est complètement dingue. Même si on veut, c'est comme même si on veut y réfléchir longtemps, on n'arrive toujours pas à comprendre vraiment le sens de cette phrase. Mais c'est ça la séduction. Ça tient ce genre de petits détails tout d'un coup. Mais je trouve que le paysage qu'il dépeint, il est tellement sexy. Et le sexy, c'est un sujet que je trouve qu'on aborde de plus trop ces derniers temps et qui mérite le coup qu'on s'y penche. Parce que quand c'est sexy. Bah, ça donne envie de se laisser faire, quoi.
Non, mais Charline est toujours à la recherche de la rationalité.
Moi, je suis chiante, ouais, pour le dire, c'est pas grave. Hein. C'est pas mon truc, chiante plutôt, ouais.
Pour la série culte, vous choisissez, Bastien, Platane. C'est une série d'Éric Judor et Afid de Benamar, diffusée depuis le 5 septembre 2011 sur Canal+. Charline, vous aimez les arbres.
Bien sûr.
Et ils vous le rendent bien, d'ailleurs. Qu'a donc ce Platane-là de particulier?
C'est celui que se prend de pleine face, Éric Judor, au début de la série. Métaphore cruelle du métier de comédien, de réalisateur, de saltimbanque, bref, du monde du cinéma.
Extrait.
Éric, Anatole, c'est le Luc Besson africain.
Ah ouais, carrément, le transporteur de bananes. Non, c'est parce qu'il a fait Luc Besson en France, il avait fait le transporteur. Donc je me disais comme... Et sinon, le Zaïre, waouh, c'est magnifique. Hein.
C'est tout l'univers judorien.
Non mais ce personnage, non mais déjà j'aime beaucoup, j'adore Éric Judor, mais je pense que toute cette série, j'en peux plus de rire à chaque fois.
Qu'est-ce qui se passe, Charline?
J'ai oublié cette réplique, pardon.
Oui, non, c'est génial. Mais dans cette série, la battle de rap, c'est peut-être un des plus grands moments comiques de l'histoire du comique. Et non, c'est là où il est fort. Éric Judor, il a vraiment compris que c'est vraiment les personnages qui tiennent une série. C'est ce qui fait qu'on a envie de replonger à chaque épisode. Il y a une trame scénaristique qui est complètement folle, mais son personnage, il est génial, et tous les autres personnages autour de lui jouent merveilleusement bien, et c'est hyper drôle.
Et la gêne. Et la gêne, il est impitoyable sur la gêne.
Non, mais
c'est horrible.
Ah ouais, c'est incroyable. Il laisse le temps durer et tout ça. Et moi, d'habitude, c'est genre quand il y a un spectacle de stand-up, t'es toujours hyper mal à l'aise. Et lui, il a compris cette espèce de malaise dans le comique. Là où tous les autres essayent de l'éviter, et lui, il y va à fond, et qu'est-ce que c'est drôle, quoi.
C'est un malaise qu'on peut parfois croiser aussi en radio.
Je vois pas de quoi vous voulez parler.
Alors je résume, Welbeck, ça commence aujourd'hui, Petite Lady et Platane, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
Éric, Anatole.
Il faut vous lever le matin, il faut vous forcer à vous lever, c'est important.
J'ai pas te laisser partir avec un légionnaire en perte.
Ah ouais, carrément, le transporteur de bananes.
J'ai pas te laisser séduire par le premier marin qui traîne.
Tu as eu des gosses, mon con, me dis-je avec entrain, tu as fourré ta grosse bite dans la chatte de ma mère.
La poubelle, elle va nous péter à la gueule, parce qu'elle n'arrête pas de grossir, la poubelle.
Et sinon, le Zaïre, waouh, c'est magnifique, hein.
Parfait. Bah, c'est ça la pop culture, je crois.
C'est ce qui traîne dans votre tête en ce moment, en tous les cas.
Ah ouais, putain, c'est dur.
Bien. Bastien Vivès, dans la suite de Pop à Pop, on va parler du chemisier. Pas le petit chemisier en soie mauve, hein, que vous portez actuellement, mais du chemisier, votre nouvelle BD éditée chez Casterman. On va en parler juste après avoir écouté un duo entre Joe Strummer et Johnny Cash sur une chanson de Bob Marley, c'est Redemption Song, et c'est à retrouver sur l'indispensable coffret Joe Strummer 001, coffret compilation, compilant toutes les raretés et titres inédits de l'ex-leader des Clash. Écoutez-moi ça.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets
while we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs.
All I ever had,
redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Redemption.
Non, mais prenez de l'eau, Antoine, ce n'est pas raisonnable, oui. Vous ne pouvez pas parler. Redemption Song, c'est donc à retrouver sur le coffret Joe Strummer 001, un coffret compilation de toutes les raretés et inédites de l'ex-leader du Clash, parce que j'ai appris auprès d'Antoine de Cône qu'on ne dit pas les Clash, mais le Clash.
Le Clash, voilà. La voix est cassée, c'est pas grave. Nous sommes toujours en compagnie de Bastien Vivès, venu nous parler de sa dernière BD, Le Chemisier. Séverine est étudiante en lettres classiques à la Sorbonne. Elle coule une existence banale, sans éclat mais sans drame, aux côtés d'un geek confirmé et plus absorbé par les écrans que par sa compagne. Après un accident de babysitting, elle se voit prêter un chemisier en soie qui va mystérieusement changer sa vie du jour au lendemain. Les hommes posent sur elle un regard différent, chargé de désir. Avez-vous, Bastien Vivès, un petit vêtement qui vous fait vous sentir irrésistible?
Non mais j'ai porté une fois une chemise et un polo.
Un polo.
Ouais, en fait, je crois que depuis quelque temps, j'adore porter des polos. Voilà. Là, j'ai pas mis là.
Ouais, vous êtes en t-shirt en fait.
Oui, voilà. Mais j'ai un polo où je suis super content.
Vous vous sentez différent quand vous portez votre polo.
Ouais. Bah, je pense que c'est le cas pour peut-être beaucoup de gens aujourd'hui. Mmh. Mais le polo, j'ai redécouvert ça.
Ce chemisier dont il est question dans le livre, c'est en fait une sorte de costume de super-héroïne.
Bah, d'une certaine manière, mais ce que je voulais montrer, c'était en fait que c'était un détail. Pour moi, c'était important que ce soit un détail parce que en fait, des jolies filles, il y en a plein partout. Des beaux mecs, il y en a plein partout. Il y a que ça. Et parfois, de vraiment en voir une qui sort du lot, c'est peut-être dû à un détail. C'est peut-être une histoire de chemisier, de coupe de cheveux, de n'importe quoi. Et ça, je vraiment.
Bah, c'est l'idée du détail qui change tout. Il suffit
bien
d'un,
sûr,
il suffit
en fait,
d'un rien pour.
C'est beaucoup de contexte dans la séduction, beaucoup de ces choses-là. Et ce qui est important, c'est même que parfois ça peut être un détail qu'on perçoit de l'extérieur, mais je trouvais ça intéressant que ce soit un détail aussi de par rapport à comment on se perçoit soi-même. Quoi, voilà, il suffit juste de changer.
Comment est-ce que vous y êtes pris pour dessiner la même personne qui d'une planche à l'autre passe de moi à carrément canon.
C'était ça le gros défi de la bande dessinée. Là j'ai un outil, c'est le dessin. Et grâce au dessin, grâce aux attitudes et tout, sans changer le visage, sans changer la coupe de cheveux, sans lui mettre des lunettes et tout d'un coup on lui met des lentilles ou je sais pas quoi. Non, juste en lui mettant un chemisier, j'ai essayé de faire que cette nana devienne absolument incroyable. Et visuellement quoi. Aimer être impressionné, impressionné par les gens, c'est très très important pour moi, et que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Donc c'est pour ça que ça a toujours été très compliqué de voter, de quoi que ce soit, parce que je suis quelqu'un de très très impressionnable.
Le point de départ de cette BD, c'est votre épouse, qu'un jour vous avez trouvé absolument ravissante dans un nouveau chemisier. Elle vous a aussi inspiré pour le perso ou Séverine, c'est vous?
Ah non, Séverine, j'ai dû prendre une autre fille que j'ai dû croiser et j'essayais vraiment de me poser la question de trouver un visage qui pourrait être à la fois un peu passe-partout et mais quand on y regarde bien, on y trouve vraiment une grande beauté et je pense que c'est vraiment pour beaucoup de gens, c'est le cas. Quand j'avais 16 ans, on n'a pas forcément ce genre d'analyse et on a l'impression que soit la nana elle est canon ou soit c'est un boudin et il n'y a pas vraiment d'entre deux. Et en fait, quand on y regarde bien et quand on regarde mieux, quand même quand on regarde un peu les photos de classe, on se rend compte souvent que la nana qui était ou le mec qui était super beau gosse à l'époque, en fait, quand on y regarde de plus près, c'est un gros laidron et le laidron qui était à côté de lui, il était pas si mal.
Parmi vos maîtres et inspirations nichons, Bastien Vivès, on peut citer le réalisateur Russ Meyer, à qui on doit des films de sexploitation tels que Faster, Pussycat, Kill Kill, Vixen, Super Vixen, Mega Vixen. Et voici ce qu'il avait à dire sur l'érotisme et la pornographie dans son ultime interview.
Personnellement, je ne suis pas particulièrement branché par la pornographie hardcore, même si j'ai rien contre, c'est juste que ça ne m'excite pas. Vous savez, mon sens de l'humour repose sur l'outrance. Gros nichon et mâchoire carrée, comme on dit. Et plus que tout, je crois que j'ai essayé de faire sourire et pas de montrer le sexe comme s'il s'agissait d'une performance olympique. Globalement, si vous faites du sexe de la manière que j'ai montré dans mes films, vous risquez de finir avec un plâtre. Mais c'est fait exprès. Et je crois que le succès de mes films doit beaucoup à ça.
Et vous, Bastien Vivès, vous dessinez des scènes de sexe pour raconter quoi? Produire quel effet?
C'est très compliqué parce que moi je m'y suis mis vraiment très tard dans la bande dessinée à dessiner des scènes de sexe, alors que j'ai passé toute mon adolescence à ne faire que ça. Parce que il fallait que je comprenne vraiment le rapport que j'avais avec mes personnages, avec mon personnage quand je fais passer une scène de sexe, c'est une parenthèse dans une bande dessinée au niveau du rythme, au niveau de tout ça, et c'est très important. Ce qui est assez drôle en plus, c'est que le sexe a toujours été en bande dessinée, je trouve, d'une certaine manière assez racoleur dans le franco-belge. Il faut pas se le cacher, et même que ce soit dans le manga ou dans le comics, on vendait des albums que sur cette fameuse planche 38 où il y a la nana qui prend une douche, voilà. Et tous les albums se vendaient là-dessus. Et là, pour le coup, d'essayer de trouver des sexes qui soient vraiment des scènes de sexe qui soient vraiment utiles à la narration, ça a pas été une mince affaire et je pense aujourd'hui que j'arrive à allier des scènes où le dessin peut vraiment beaucoup plus s'exprimer quoi.
Vous dessinez remarquablement bien les femmes, on a l'impression même que vous avez une approche de la psyché féminine.
Alors que je pense que je suis le mec qui capte le moins bien les meufs mon rapport avec les nanas, ça a toujours été en gros, on passe de très bons moments, et puis tout d'un coup, elles se mettent à pleurer, et je saurais jamais vraiment pourquoi, quoi. Et ça a toujours été à peu près ça. Et vraiment, le nombre de fois où je suis là en train de, et puis je me rends compte, oh merde, elle est en train de pleurer, et donc, j'essaie de la réconforter, et puis voilà.
Peut-être un mot déplacé, Bastien.
Ou peut-être que j'ai dû faire quelque chose, et on
c'est pas tant, c'est pas tant ce que vous dites, c'est plus le ton sur lequel vous dites, en fait.
Je crois que ça fait des choses comme ça.
Vous y mettre aussi, Charline.
Pardon. Elle rit, mais je ne sais même pas si ça a un vrai intérêt de... Enfin, il faut essayer de comprendre et tout ça dans un couple, mais je pense que c'est encore autre chose, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous attire chez ces êtres étranges que l'on appelle les femmes?
Les femmes, parce qu'elles ont quelque chose qu'on n'aura jamais, nous, d'une part, et c'est pour ça que ça m'attire d'autant plus que je dessine, c'est que la plupart des femmes, il y en a quelques-unes qui l'ont, mais l'élégance, voilà, c'est vraiment le seul truc. Alors que dans le monde animal, tous les animaux, tous les gens l'ont. Enfin voilà, bref, les femmes, elles sont élégantes, les hommes, non, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, et ça me rendra toujours, je serai toujours émerveillé devant une femme élégante.
Je ne pensais pas que l'homme est une femme comme les autres.
C'est un très, très bon. Mais non, je ne pense pas. Non, je pense pas.
On croise plus de filles nues que d'hommes nus dans vos livres. Ils vous donnent plus de fils à retordre pour le dessin.
Pour le dessin, ça c'est sûr. Ils me donnent un petit peu plus de fils à retordre. En plus, ce qui est difficile, c'est que difficile de rendre un homme nu sexy ou quelque chose comme. Même s'il est difficile même de rendre un personnage nu sexy. C'est vraiment, c'est toujours compliqué. Vous foutez une nana à poil, c'est pas sexy. Il faut arriver à soit avec un vêtement, une pose, n'importe quoi, un contexte, c'est là où on crée vraiment chose. Mais juste une nana toute nue ou quelqu'un de nu, non, ça me fait pas penser à quelque chose de sexy. Je vois plus même un côté, je sais pas, pas de camp de concentration ou n'importe quoi, mais quelque chose de plus dur, de plus médical, voilà. Non, pour le coup.
Comment jugez-vous que le dessin que vous faites est sexy?
C'est pas une mince affaire. Moi, quand j'étais petit, c'était facile. C'était parce que ça me faisait bander. Aujourd'hui, moins. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les gens ont tellement des sexualités personnelles ou ont tellement des fantasmes personnels que parfois, il vaut mieux être honnête avec soi-même et faire un dessin qu'on va juger, entre guillemets, un peu, je sais pas comment dire, qui nous plaise. Et les gens trouveront toujours à manger là-dedans, quoi. Si le dessin est assez généreux, les gens arriveront toujours à manger là-dedans. Parfois, les gens, ils tripent sur les pulls, les coupes de cheveux, les lunettes, les pieds. Enfin, voilà.
On va en reparler tout à l'heure de la sexualité de nos contemporains, nos compatriotes.
Vous dites le désir passe par le regard. Or, dans Le Chemisier, en dehors des yeux de l'héroïne, Séverine, et parfois de Ali, le flic qu'elle rencontre, on voit assez peu les globes de ceux qui les entourent. Comment ça se fait?
Par exemple, pour son petit copain, c'était une réelle volonté parce qu'il avait des lunettes.
Des lunettes,
et
on voit jamais
ses
yeux. Et
lui, de toute façon, c'est le personnage qui va rester aveugle tout le long de l'histoire. Pour les autres, tout dépend parce que j'aime bien le fait que, par exemple, même le prof, au début, on voit pas ses yeux et tout d'un coup, elle met un chemisier en cours et ça y est, en fait, il se dit comment vous appelez, qui vous êtes, alors qu'il l'avait même pas calculé pendant toute l'année. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment là-dedans au niveau des regards, d'une certaine manière, il faut impressionner les gens, il faut laisser une trace, on peut pas juste se contenter d'essayer de raser les murs et de passer le plus inaperçu possible. D'une certaine manière, j'essaie de le faire à travers les bandes dessinées et autre chose, et je pense que tout le monde doit essayer d'une certaine manière de se rendre intéressant, quoi.
Moi, j'ai une question un peu technique. Pourquoi vos personnages ont-ils parfois des visages et parfois pas?
En fait, moi, c'est vraiment à chaque fois, c'est toujours si j'ai besoin de l'info ou pas, quoi. C'est par exemple si j'ai mon personnage qui est un peu plus loin et j'ai juste besoin d'attitude, je mets pas le visage. Et puis on peut le faire dans la BD. Donc il faudrait être fou pour dessiner le visage à chaque fois, il faudrait être fou pour redessiner les décors à chaque fois. Si on peut passer le cap. Et parfois, c'est souvent des informations qui viennent rajouter à la lourdeur de la narration. Et dans la bande dessinée, la lourdeur, c'est une chose qu'on essaye d'éviter assez.
Mais donc c'est aussi dans un souci d'épure, et vous avez l'impression que plus le temps passe et plus vous...
Oui, en fait, même si là, dans Le Chemisier, j'ai dû pousser les décors, l'action se passe à Paris, c'est plus sur la plage en Bretagne, donc à Paris, c'est des immeubles, c'est des voitures, c'est des foules, donc là, j'ai dû me taper tout ça. À chaque fois que je ne mets pas les yeux ou que je cache un visage, je laisse une silhouette, c'est toujours pensé pour la narration. Et vu que l'œil ne s'arrête qu'une fraction de seconde sur le dessin, les gens ne s'en rendent pas forcément compte.
C'était déjà le cas avec Une sœur, et sans spoiler Le Chemisier, le sexe et la mort cohabitent volontiers dans vos bandes dessinées, Eros et Thanatos. Vous êtes freudien, Bastien?
Aucune idée, il faudrait que je me mette à lire Freud. Déjà avec Houellebecq, j'ai déjà pas mal de boulot. Mais non, pour le coup, oui, évidemment, le rapport des deux, ça se fait assez facilement, mais je pense même que par rapport aux sentiments amoureux, même si dans Le Chemisier, on l'esquisse légèrement, mais on n'en parle presque pas. Mais je pense que l'idée de mort, tout d'un coup, prend une autre saveur que juste simplement une expérience, je sais pas, une espèce de délire physique, quoi. Mm-hmm. Tout d'un coup, quand on devient amoureux, on a l'impression que on s'imagine des scénarios un peu morbides tout le temps, je trouve. Donc,
Mais l'album Le Chemisier est parfois mélancolique. Hein. On sent la période de l'après-attentat, la libération de la parole des femmes. Le chemisier, c'est aussi un moyen d'exorciser.
Oui, complètement. En fait, d'habitude, je me laisse pas trop bouffer par l'actualité. C'est l'avantage d'avoir été un peu geek, de jouer aux jeux vidéo, tout le bordel. C'est que parfois, on est un peu dans une espèce de tunnel. Là, pour le coup, ouais, cette année-là était vraiment très poussée. Je me suis pas rendu compte à quel point, en fait, je sais que Charlie Hebdo, ça m'avait marqué sur le moment, mais à quel point ça m'avait vraiment profondément marqué. Pour cette histoire de liberté d'expression, même si je vais pas forcément moi me battre là-dessus, c'est pas pour ça, mais que des gens se soient fait buter pour des dessins qu'ils ont faits, il y a quelque chose qui m'a fait ça laisse à réfléchir, et ça a mis surtout dans la tête des gens qu'il y a des choses qu'on a le droit de dessiner ou pas. Et le chemisier, pour moi, il y avait un exemple. C'est pas du tout une BD porno ni rien. On va parler aussi de sujets parfois très sérieux, alors que c'est entre guillemets, c'est de la BD. J'avais besoin de pouvoir librement emmener le lecteur et lui parler de tous les sujets qui me paraissaient importants. Mmh. Et oui, évidemment, il fallait que je recrache un petit peu toutes ces années. Cette année 2017-2018.
Et une liberté qui fait que vous êtes aussi pointé du doigt par des ligues.
Oui, vertu, un petit peu, oui, bien sûr. Mais c'est fou, justement. C'est fou de constater ça, de constater que sans faire de gros amalgames machin, mais la plupart des gens qui me sont tombés un peu dessus en disant que mes albums étaient choquants et compagnie, c'est ceux qui défilaient Je suis Charlie il y a 3 ans. Les mentalités, j'ai l'impression que les gens, ne se sont pas trop repenchés là-dessus, ont pas trop réfléchi à vraiment le poids que c'était de voir des mecs débarquer avec une Kalachnikov et de buter des gens buter des dessinateurs, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et je trouve ça assez flippant, ce qui fait que ça a posé plein de problèmes sur la représentation. Et là, il y a une espèce d'amalgame où on va récupérer un peu tous les textes de loi qui parlent de représentation et vouloir s'en servir comme censure. Ce qui était à la base, au contraire, c'était pour essayer de protéger un petit peu l'image, quoi. Ouais.
Ça s'appelle Le Chemisier, c'est le nouveau Bastien Vivès, et comme tous les Bastien Vivès, il est absolument indispensable, il est publié chez Casterman. Bastien, vous savez faire ça?
Ah oui. Non. Ah si.
Si, vous voyez. Vous savez faire plein de choses. C'est pour lancer les pop news.
Les Britanniques font leur pop list, ou presque. L'Official Charts Company a demandé à ses concitoyens de voter pour établir la liste de leurs albums préférés de tous les temps. Et voici le podium, 3e place. L'album What's the Story Morning Glory d'Oasis, 2e place. Le 21 d'Adèle est en tête des albums préférés des Anglais. Alors ça, c'est une surprise, dites-moi. Les Beatles, ben oui, avec le Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Et en 3e place, l'Angleterre n'est plus ce qu'elle était. Une bande-annonce pour le très attendu Astérix, le secret de la potion magique, film d'animation que l'on doit à Louis Clichy et... Mais oui, bien sûr, Alexandre Astier, une bande-annonce dans laquelle on voit le druide Panoramix lourdement chuter.
Pas une fois je ne me suis même tordu la cheville. Pas une fois. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique.
Quoi ?
Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier.
Quoi ?
Catastrophe, Obédix.
Qui sait ce qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ?
Panoramix.
Astérix. C'est vous ?
Mais oui, c'est moi. Le secret de la potion magique, sorti le 5 décembre.
Comment porter le costume quand on a moins de 30 ans? Quelle paire de sneakers avec quel pantalon? Faut-il en finir avec le slim fit? Et sinon, le jean blanc est-il vraiment possible en hiver? Si vous aussi vous posez toutes ces questions, sachez que vous trouverez les réponses en kiosque demain dans le dernier né des éditions So Press, à qui on doit déjà So Food Society, So Film. Ce nouveau magazine sous-titré Le guide de l'élégance masculine s'appelle L'étiquette. J'avoue, on est quand même un peu triste que So Quête n'ait pas été retenu. Une nouvelle publication pilotée par Marc Baugé pour que vous, messieurs, soyez beaux comme des camions avec la classe à Dallas.
France Inter. On peut pas. Antoine de Caunes.
J'ai compris.
Je rappelle que c'est vous qui lui avez proposé. Hein.
Socket.
N'empêche pas trop, Antoine, ça suffit maintenant.
Merci, Charline. Avant d'accueillir la sociologue Janine Mossulavo, on écoute les Beastie Boys avec le morceau Fight for Your Right. Fight for your right, Beastie Boys 1986, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Bastien Vivès et vient de nous rejoindre celle qui s'intéresse à ce qui se passe dans le lit des Français, la sociologue Janine Mossulavo. Bonjour Janine Mossulavo.
Bonjour Antoine.
Vous publiez La vie sexuelle en France aux éditions de La Martinière. Alors avant toute chose, Janine, vous avez lu le livre de Bastien. Dans quelle catégorie le rangeriez-vous ?
Dans la catégorie poétique, parce que j'ai trouvé, disons, c'est à la fois ces dessins et cette histoire j'ai trouvé très beau, et j'ai beaucoup aimé cette idée du, disons justement, du chemisier, enfin de l'objet fétiche mais magique, qui fait que non seulement les autres vont voir cette fille différemment, mais que elle va surtout se sentir différente et agir différemment et prendre des initiatives, alors qu'au début elle était quand même un peu apathique, hein, oui. Votre héroïne.
Pour La vie sexuelle en France, vous avez recueilli des témoignages, 65, oui. Si je ne m'abuse, 65 personnes pour plus de 65 millions de Français. Est-ce que c'est suffisant?
Alors, c'est suffisant pour faire une enquête qualitative, c'est-à-dire par histoire de vie comme je l'ai faite. Bon, évidemment, c'est pas une représentativité quantitative comme quand vous avez un sondage sur 3000, 4000 personnes. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était de savoir ce qui se passait, les mécanismes, comment se passait l'enfance des gens, leur première fois, leur rupture, leur plaisir, leur désir, enfin, bon, tout ça. Et pour ça, bah, les histoires de vie, c'est, disons, indispensable. Et les histoires de vie qui durent 3 heures, 4 heures, 5 heures, bah, vous n'allez pas en faire des milliers, hein, c'est pas possible. Sinon, et je n'ai même pas d'ailleurs utilisé tout ce que j'avais, sinon j'aurais fait un livre de 4000 pages. Ouais. Mais c'est fait comme ça.
Voilà. La vie sexuelle en France sort 17 ans après une première enquête. Alors on va approfondir, mais en un mot, elle a évolué comment cette vie sexuelle des Français en 17 ans? Par exemple, est-ce que les Français se confient plus volontiers à propos de leurs pratiques sexuelles, y compris les plus inavouables?
Alors, d'abord, cette vie a évolué d'une façon générale vers plus de liberté. Bon. Dans les pratiques, sans doute un peu, sauf que je peux pas apporter des preuves. Je suis pas, moi, j'ai passé des heures avec toutes ces personnes. Je suis pas allé dans leur chambre à coucher ou dans l'ascenseur pour les plus pressés ou ailleurs, hein, mais ou dans les clairières ou n'importe où. Mais j'ai pas fait ça. Donc, ce que je peux dire, c'est ce qu'ils me disent. Et en tout cas, là où je vois plus de, disons, de liberté ou de libération, on peut appeler ça comme on veut, c'est que ils ont moins de culpabilité pour assumer ce qu'ils ont envie de faire. Ça peut être des doubles vies, ça peut être n'importe quoi, et ils ont moins de culpabilité. Ils pensent qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire et que c'est légitime. Ça, c'est un peu différent. Et puis, dans la parole, alors là, c'était, disons, un festival, parce que moi, je n'ai pas été du tout surprise par l'histoire MeToo, Balance ton porc en octobre, parce que depuis le mois de janvier, j'entendais des gens qui parlaient, et de leur vie amoureuse sexuelle, et notamment en abordant spontanément des choses, des points sur lesquels il fallait que je pose des questions 17 ans plus tôt. Donc ça venait, ils avaient envie de parler, ils étaient contents de parler. Ça, c'était vraiment, d'ailleurs, souvent... D'abord, il y en a qui voulaient pas partir, et puis certains qui voulaient que ça se prolonge le plus possible, puis d'autres qui me disaient « Oh, c'était tellement bien, vous devriez... J'aimerais bien que vous receviez mon copain machin ou ma copine machine, il va pas bien, et ça lui ferait le plus grand bien.
» Donc, il y a un truc dans le studio aujourd'hui.
Ouais. C'est vous, vous êtes contagieux. Je crois qu'il y a une potion magique.
Oui, il y a une potion magique. Attendez, je vais enchaîner. Pendant un an, vous avez enquêté sur le terrain pour recueillir des témoignages de femmes et d'hommes jeunes et moins jeunes, de tous les milieux, de toutes les orientations sexuelles. Alors, tout y passe, hein, l'enfance, la première fois, les sites de rencontre, la sodomie, la polygamie, compensatoire. Alors, attendez, je connais parfaitement le calcul des montants compensatoires, mais moins cette théorie de polygamie compensatoire.
Alors ça, c'est quelque chose qui, bon, d'après un certain nombre de spécialistes écrivains, et notamment l'écrivain Michel Schneider, qui est aussi psychanalyste, a caractérisé beaucoup les femmes après une... Et les hommes, il y a deux choses. A caractérisé d'abord les hommes après une rupture. Les hommes étant... atteint après une rupture et pratiquant la polygamie compensatoire, c'est-à-dire il faut faire le plus de choses possible, les conquêtes, enfin pour cicatriser, pour oublier, pour aller mieux, pour soigner son ego et tout ce qu'on veut, alors que les femmes pratiqueraient ce qu'il appelle la chasteté réparatrice. Bon, tout ça, c'est en train d'être roulé dans la farine par ce que j'ai observé, par ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vraie vie des vrais gens. C'est pas trop ce que racontent parfois les experts ou les politiques, enfin, toutes les gens, les milieux autorisés, comme disait Coluche. Hein. Et donc, ce que j'ai vu, c'est à la fois des femmes qui peuvent être tout à fait, après une rupture, en train de se jeter dans la collection, et des hommes qui, après une rupture, me disent « Ah, moi, je suis restée un an sans toucher qui que ce soit, tellement j'étais mal, etc. etc. » Et ce qui rapproche plus encore les deux, c'est que les femmes, maintenant, enfin d'après ce qu'elles me disent, ce qu'elles m'expliquent, elles expriment beaucoup plus leur désir, leur envie de plaisir, et donc leur liberté, sans être forcément follement amoureuses pour avoir des relations sexuelles, alors que les hommes sont très demandeurs, pas seulement de sexe pour le sexe, comme on l'a dit souvent, mais de sentiments, de complicité, d'amour. Donc, ça se rapproche, et tant mieux pour le meilleur des mondes dans lequel on voudrait arriver.
Sur France Culture, il y a quelques jours, vous parliez de l'importance des préliminaires pour les femmes. Écoutez. Oui.
Leur plaisir maximum à elles, c'est plutôt le cunnilingus, les caresses, etc.
L'importance des carottes, donc.
Oui, ben oui, il y a toujours des lapsus dans ce genre de choses.
Ils sont toujours
révélateurs. Voilà, révélateurs sans doute.
Bah, 5 fruits et légumes par jour. Hein.
Voilà, on nous met ça dans la tête, évidemment, depuis tellement de temps qu'on finit par, disons, s'y mettre soi aussi. Hein. Mais c'est vrai que ce que me racontaient beaucoup les femmes, c'est que c'était une... Ça aboutissait à une désacralisation de la pénétration, si vous voulez. Et au contraire, elles attiraient l'attention sur les préliminaires, qu'on ne devrait pas d'ailleurs appeler préliminaires d'une façon un peu bébête, c'est-à-dire ce qui, faut faire avant, mais ce n'est pas ce qui est le plus important, ce qui est important, c'est après, voilà, boum boum. Eh bien, elles disent non, ce qui procure le plaisir le plus aigu, le plus, comme disons la décharge électrique, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les préliminaires, alors que la pénétration, c'est, ils disent toujours, c'est indispensable parce que c'est la fusion des corps, et on connaît, j'espère, tous ce genre de choses. Et c'est pour une réhabilitation et surtout attirer l'attention aussi des hommes sur ces fameux préliminaires qu'on ne devrait pas appeler comme ça, ou alors on pourrait appeler la pénétration post-liminaire.
Bastien Vives vous écoute passionnément.
Complètement.
D'attention.
C'était par rapport à ces histoires de jouissance. En fait, c'est drôle parce que j'avais vraiment dans l'idée quand j'étais, même ado et tout ça, de me dire qu'en fait, à la fin, les deux jouissaient au même moment. En fait, cette espèce de, cette espèce d'idéal. Et en fait, je pense que c'est pratiquement impossible. Enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment, je pense que ça tient du miracle, mais c'est quelque chose qu'on découvre peut-être beaucoup plus tard, quoi.
C'est des choses qui arrivent, mais qui sont pas systématiques.
Mais voilà, c'est ça. On a toujours l'impression qu'une bonne baisse, c'était quand les deux ont réussi à jouer en même moment.
Oui, mais ils jouissent pas forcément en même temps.
Oui, voilà.
Ils peuvent jouir tous les deux pendant le même acte.
Ah oui, non, évidemment,
Pas, c'est pas souhaitable, mais
dans les films, ils arrivent tous les deux.
Oui, mais moi, je crois que c'est comme les débuts. Je veux dire, dans les films, les gens arrivent, s'arrachent leurs vêtements. Je suis pas sûr que vous tous ici, rentrant chez vous, vous allez arracher vos vêtements, arracher les vêtements de votre partenaire.
On replie après.
Sauf si c'est un chemisier.
Ah, oui, c'est ça.
Chemisier, c'est vrai qu'il est très beau, chemisier, et qu'il dévoile des choses tout à fait attirantes, mais je suis pas sûr que... Enfin, ils ont déchiré, quoi.
Janine Mossulaveau, est-ce qu'à l'ère du porn de grande consommation, où on peut voir sur Internet des amateurs comme le boucher de son village en combinaison SM, hurler, merci qui, merci Jackie et Michel, est-ce que dans cette ère-là, les gens se confient plus facilement qu'il y a 17 ans, à l'époque de votre première enquête?
Ah, ils se confient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on m'a raconté des choses extraordinaires, parfois drôles, à un point que ces entretiens ont été des moments de grande rigolade. Hein. Mmh. Alors parfois des choses violentes et il y a eu des larmes aussi. Mais des rires, des larmes, vous voulez un exemple de rire?
Bien sûr, oui.
Alors de rire, c'est... je ne vais pas raconter toujours les mêmes histoires, donc je vais vous en prendre une autre. C'est pas les carottes. C'est une histoire, c'est une fille absolument adorable. Si je vous la présentais, vous seriez tous comme ça, qui a 25 ans, qui est belle, intelligente, drôle, enfin tout, et qui me racontait qu'elle avait décidé, quand elle avait 18 ans, elle en avait marre d'être la seule qui ne savait pas ce que toutes les autres savaient, enfin disait qu'elle savait, parce qu'il y a beaucoup qui se vantent, j'ai déjà fait, mais ce n'est pas forcément vrai. Et donc elle avait décidé, comme d'autres filles de son âge, de se faire dépuceler, mais pas par quelqu'un qu'elle aimait, parce qu'elle visait un beau garçon dont elle était vraiment très éprise, et elle ne voulait pas faire ses premières armes avec lui, parce qu'elle aurait risqué d'être maladroite, pas bien, et de le dissuader de revenir. Donc elle misait tout sur lui, donc il fallait qu'elle ait de l'expérience avant. Et donc elle avait choisi pour son dépucelage un garçon qu'elle n'aimait pas, un vieux, comme elle m'avait dit, un vieux de 35 ans, et donc avec qui les choses devaient se passer. Et là, elle me raconte que j'étais très à l'aise, parce que comme j'étais pas amoureuse, et pour me montrer à quel point elle était à l'aise, elle me dit, vous comprenez, j'ai enlevé ma culotte moi-même. Je trouvais ça très 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 joli. C'est soft, mais nous sommes l'après-midi. Hein. Si les gens veulent des choses plus hard et plus trash, il y en a beaucoup dans mon livre, il faut qu'ils aillent feuilleter page à page.
Et c'est un bouquin absolument passionnant qui était édité à La Martinière, ça s'appelle La vie sexuelle des Français. Merci infiniment Janine Mossulaveau d'être venue. L'émission touche hélas déjà à sa fin. Nous avions encore plein de choses à faire. Merci Bastien Vivès. Votre BD Le Chemisier s'est édité chez Casterman. Et comme
merci.
Toutes vos BD, elles sont absolument indispensables. Nous le répétons ici. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Rémi Sistiaga, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, les auteurs Lola Lafont et Nicolas Mathieu. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos bit en bois sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast!
Oh Raoul!
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop pop pop, sur Instagram et Twitter!